C'est un peu frustrant parce que ça va vite et peut-être que vous n'êtes pas arrivé au bout. Voilà, donc je vais essayer de, le plus rapidement possible de conclure avec quelques réflexions. Et pour ne pas trop me disperser ou trop diluer mon propos, je me concentre simplement sur « Vous êtes le sel de la terre ». Il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, pour faire le plus court possible, je m'arrête simplement sur cette première affirmation de Jésus. Et cette affirmation, comme celle au sujet de la lumière, elle répond à une question fondamentale pour chaque disciple, chaque chrétien né de nouveau. La question, la voici, en tant que disciple de Jésus, quelle est ou quelle devrait être ma place, mon rôle, ma fonction dans le monde dans lequel je vis? En tant que disciple, quelle est, quelle devrait être ma place, mon rôle, ma fonction dans la société, dans le monde dans lequel je vis? Voilà, je crois, à quoi nous renvoient essentiellement ces deux images. Alors, dans un premier temps, je vais donner le sens général de « Vous êtes le sel de la terre », puis rapidement, je vais souligner trois choses, et enfin, je m'arrêterai sur une question, comment être concrètement sel de la terre? Alors, le sens général, tout d'abord, et la première chose que j'aimerais dire, c'est que Jésus s'adresse à ses disciples, c'est important de le noter, même si à la fin du sermon sur la montagne, il est question de la foule qui s'approche, au début du sermon, il est question des disciples qui viennent à Jésus et Jésus s'adresse à eux. Et donc, les principes qui sont énoncés, les principes de vie que l'on trouve dans le sermon sur la montagne, sont des principes de vie pour les disciples, dans le royaume de Dieu, et non pas pour le monde. Je sais qu'il y a des débats là-dessus, mais voilà ma compréhension des choses, et on pourra argumenter plus tard si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour les disciples. Le sermon sur la montagne, ce n'est pas un programme pour nos municipalités, pour nos villes, pour nos pays. C'est le programme pour le royaume de Dieu, pour les disciples de Jésus. Deuxième chose, c'est que cette affirmation, celle concernant le sel de la terre, mais celle concernant la lumière aussi du monde, c'est une affirmation qui dit quelque chose de notre relation au monde. Ça dit, et ça vient nous faire comprendre des choses sur notre relation, la relation du disciple au monde dans lequel il vit. Et cette image du sel en particulier, que Jésus utilise ici, elle va nous parler d'impact, elle va nous parler d'influence du chrétien dans le monde. Et ainsi, le chrétien, à la manière du sel, va avoir un impact, va agir sur le monde, va avoir une incidence, enfin une influence, va avoir ou en tout cas devrait avoir. Il devrait en être ainsi. C'est le troisième point, c'est que ce que Jésus nous dit ici n'est pas présenté comme quelque chose de facultatif. Cet impact, cette influence, cette relation au monde, elle est attachée à ce que nous sommes en tant que disciples, à ce que nous sommes par nature d'une certaine manière. Et par nature, en acceptant le Christ en nous, nous sommes devenus sel de la terre. Nous n'avons pas à le devenir, nous le sommes. Et nous sommes la lumière, nous n'avons pas à la devenir, à l'allumer ou à que sais-je. Donc c'est quelque chose que nous sommes et notre relation au monde va avoir à faire avec ce que nous sommes devenus en Christ. Pour nous ici, sel de la terre, et donc nous devons transmettre notre sel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire que si le sel perd de sa saveur, alors il devient inutile. On le jette et à la fin du verset, il est question qu'il est bon à être jeté, à être foulé. Et donc s'il arrivait que notre sel devienne fade, alors quelque part notre rôle deviendrait inutile. Ce rôle que Jésus a voulu pour nous, nous ne sommes plus dans cette fonction, dans ce rôle que Jésus a voulu pour nous. Quatrième et dernière remarque rapidement, c'est que, je l'ai déjà évoqué, nous sommes et nous ne sommes pas appelés à devenir, nous sommes celle de la terre. En devenant disciples, nous sommes devenus. C'est une réalité, c'est une affirmation de Jésus. Donc ce n'est pas quelque chose que nous devons rechercher, c'est quelque chose que nous devons mettre en œuvre, c'est quelque chose que nous devons vivre. Être celle de la terre nous appelle, nous oriente vers quelque chose à faire. Et donc la question que je me pose en tant que disciple de Jésus devant cette affirmation, ce n'est pas est-ce que je suis ou est-ce que je ne suis pas celle de la terre. Je suis celle de la terre, dit Jésus. Donc ça, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que ma vie de disciple est salée ou fade, hein, pour rester dans l'image. Est-ce qu'elle est salée ou est-ce qu'elle est fade? Est-ce que ma vie de disciple joue le rôle, a l'influence que le Seigneur aimerait qu'elle ait ou pas? Je passe au deuxième point, la métaphore du sel, qui va, dans ce deuxième point, donc, on va réfléchir à cet impact qui est une nécessité du chrétien dans le monde, et on réfléchit donc ici au genre de relation que sous-entend cette affirmation, l'influence que nous devrions avoir. Et donc, dans ce deuxième point, nous allons voir ce que la métaphore du sel apporte à cette compréhension, à cette influence nécessaire, à cette relation au monde que Jésus souhaite que nous ayons. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire que ce que j'ai le temps de dire maintenant. Je souligne rapidement trois choses, trois fonctions du sel. Elles ont certainement été évoquées pour l'ensemble, sans doute dans les réflexions des groupes, mais ça fera office de rappel et peut-être avec l'une ou l'autre chose en plus. Premièrement, le sel assaisonne, le sel donne du goût, le sel relève le goût. C'est la première fonction du sel que j'aimerais souligner et qui nous ramène à ce dicton que vous connaissez peut-être, ce dicton populaire qui dit « table sans sel, bouche sans... » Comment ? Ouais, bouche sans salive. Bon, il n'est pas très connu, hein, ce dicton. Table sans sel, bouche sans salive. Il faut que je me méfie là où je vais trouver mes dictons, parce que... à mon avis, c'est quelqu'un qui l'a inventé, qui dit que c'est un dicton populaire. Bon, voilà. Bon, table sans sel, bouche sans salive, on comprend ce que ça veut dire. Hein, effectivement, les aliments sans sel... Ce n'est pas la même chose que les aliments avec le sel. Ça m'a fait penser à cette chère sœur que je visitais quand j'étais en Alsace à l'hôpital et qui maintenant est avec le Seigneur et qui était au régime sans sel à cause de sa maladie. Et je la regardais manger son potage et c'était une torture pour elle. Hein. Et elle n'arrêtait pas de dire « mais ça n'a pas de goût, mais c'est pas bon, mais ça n'a pas de goût ». Et oui, le sel rend les aliments meilleurs, plus savoureux, plus goûteux, on le sait tous. Et donc ici, le parallèle avec la vie chrétienne, avec la vie de disciple, c'est que notre vie est certainement appelée par le Seigneur à donner du goût, à rendre la vie meilleure, à apporter de la saveur dans notre monde. Et je mets ça en lien avec le bien, en particulier le bien que nous sommes appelés à faire, à réchauffer de notre amour celles et ceux qui nous entourent et d'une certaine manière à assaisonner la vie de celles et ceux qui nous entourent par l'amour du Christ que nous avons reçu et cet amour que nous partageons et tout simplement aussi l'amour pour chacun. Et donc en agissant ainsi, le chrétien va agir comme le sel de la terre. C'est du sel qui donne du goût, c'est du sel qui donne de la joie dans nos relations, du sel qui donne du réconfort, du sel qui donne de l'espérance, du sel qui donne de la paix ou qui apporte la paix, et du sel qui donne en particulier le goût de la vie abondante que nous avons reçue en Jésus et qui va être communiquée et que Dieu veut offrir aussi à celles et ceux qui nous entourent. Le sel donc assaisonne, donne du goût aux aliments, c'est la première chose. Le sel ensuite préserve la nourriture de la corruption. Et c'est sans doute l'usage principal à l'époque de Jésus. Hein, on conservait les aliments dans le sel, ça se fait encore et ça s'est fait pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'on ait des réfrigérateurs, on conservait beaucoup de choses dans le sel. Et très certainement qu'à l'époque de Jésus, c'était ainsi. Et donc nous avons ici, je crois, une autre image de ce que le chrétien doit faire dans le monde, est appelé à faire, de l'influence que nous sommes appelés à exercer sur notre monde, sur notre société, dans nos familles, dans nos voisinages, avec nos amis. Alors peut-être que vous n'avez jamais considéré la vie chrétienne sous cet angle-là, votre vie de disciple, comme un des moyens, je dis bien un des moyens, dont Dieu se sert pour garder le monde de sombrer totalement dans la corruption. Je pense que si Dieu n'enlevait pas tous ces garde-fous, tous ces moyens qu'il a mis, et en particulier les chrétiens, notre monde sombrerait dans des ténèbres totalement opaques. Et Dieu se sert de la présence des chrétiens dans le monde pour empêcher le monde de sombrer dans une corruption totale. Et peut-être que vous avez déjà été au bénéfice de cette influence-là, peut-être que vous avez été, je l'espère, l'instrument de cette influence bienfaisante auprès d'autres personnes. C'est le chrétien qui arrive au milieu d'une discussion sale où on dit toutes sortes de choses pas convenables, et puis sa seule présence va suffire à arrêter le flot de grossièreté. Pas forcément besoin de dire quelque chose s'il est identifié comme chrétien. C'est l'action préservatrice du sel. Parfois, ça ne suffit pas, bien évidemment. Ça m'a fait penser à cet épisode au début de notre mariage. Je ne parle pas souvent de ce que j'ai vécu, mais au début de notre mariage avec Annette, une fois à Nouvel An, on s'est retrouvés avec mes amis de lycée, mes amis d'enfance, mes amis de lycée. C'était assez particulier, je revenais de mes études de théologie, et bien évidemment, mes amis savaient que j'étais pasteur. Et pendant tout le repas, pendant toute la soirée, on a entendu des choses du genre « Ah, ça on ne peut pas le dire parce que Jésus est là » ou « Ah, ça on ne peut pas le dire parce qu'il y a le pasteur » ou alors après avoir dit une grossièreté « Ah, excuse-nous, on ne le redira plus, etc. » Voilà, c'était comme ça toute la soirée. On n'a pas besoin d'être comme certaines personnes qui ont influencer le monde d'une manière extraordinaire parce qu'ils étaient chrétiens. Je pense à William Wilberforce qui au XVIIIe siècle en Angleterre s'est battu pour faire cesser l'esclavage et a obtenu l'abolition de l'esclavage. C'est extraordinaire. Mais on n'a pas besoin d'être un William Wilberforce pour influencer celles et ceux qui nous entourent. On n'a pas besoin d'être un Martin Luther King qui a œuvré pour les droits civils aux États-Unis, en particulier pour les minorités et pour les Noirs. C'est extraordinaire ce qu'il a fait et les résultats obtenus, mais on peut aussi influencer à notre petit niveau, là où le Seigneur nous a placés. Et finalement, que le Seigneur nous appelle à faire de grandes choses, comme Martin Luther King ou William Wilberforce ou d'autres encore, ou qu'il nous appelle à faire de petites choses, la question n'est pas là, peu importe. L'important, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande et d'être surtout fidèle dans les petites choses et les grandes choses que le Seigneur nous confie, parce que ce qui est important, c'est que là où nous sommes, là où le Seigneur nous a placés, sans condamner et sans culpabiliser, les vies de celles et ceux qui nous entourent, nous leur fassions du bien, nous les influençons par la vie du Christ qui est en nous. Nous les influençons pour le meilleur, et le meilleur, c'est toujours de connaître Dieu comme son sauveur personnel. Et un jour, peut-être pas ici-bas, mais un jour, ça fera partie des choses qu'on découvrira dans la gloire, de voir comment le Seigneur s'est servi de nous, parfois à notre insu, pour agir, pour donner du goût, pour préserver de la corruption celles et ceux qui nous entouraient. Le dernier point ici, et ensuite j'arrive à la conclusion, c'est cette troisième fonction, c'est que le sel donne soif. Le sel, ça donne envie de boire, ça donne soif. Et je vais couper là la petite illustration pour gagner un petit peu de temps. Et donc la question pour nous, c'est est-ce que ma vie, elle donne soif de connaître Dieu ? Est-ce que ma vie donne envie d'en savoir plus sur celui qui est mon Sauveur et mon Seigneur, si je le fais savoir autour de moi ? Est-ce que ça donne envie d'en savoir un petit peu plus ? Est-ce que ma vie donne soif à quelqu'un de connaître Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur ? Je crois que c'est la question qui nous est renvoyée par ce troisième point. Est-ce que ma vie suscite des interrogations ? Est-ce qu'elle donne envie de connaître celui qui m'a sauvé, celui qui s'est donné pour moi, celui dont j'affirme être le disciple, c'est-à-dire Jésus-Christ ? Le sel donne soif, le sel suscite la soif. Et vous et moi, on a tous déjà mangé une fois trop salé. Hein, ça nous est tous arrivé, puis on a passé le reste de la journée à boire. À boire, à boire, à boire. Hein, ça nous... ben peut-être, toute proportion gardée, c'est l'effet qu'on devrait produire. En tout cas, donner envie à celles et ceux qui nous voient vivre d'en savoir un peu plus sur le Christ que nous suivons et sur le Dieu que nous aimons et que nous servons. Je termine. Comment être concrètement sel de la terre ? Comment donner du goût ? Comment préserver du mal ? Comment donner soif de Dieu, de Jésus, du bien ? Ça nous amène à d'autres questions. Est-ce que je suis, du verbe être, sel de la terre ? Au sens de, est-ce que je suis disciple de Jésus ? C'est ça la question. Parce que si je suis disciple, je suis sel de la terre. Si je suis sel de la terre, si je suis disciple, est-ce que c'est du sel utile ? Est-ce que c'est du sel qui a du goût ou pas ? Est-ce que mon sel est dans la salière, prêt à l'emploi, posé sur la table, et il n'y a plus qu'à l'utiliser ? Ou alors est-ce qu'il est dans son paquet, bien rangé, au fond du placard ? En d'autres mots, est-ce que j'exerce l'influence que je devrais exercer en tant que disciple de Christ, parce que je suis disciple de Christ ? Ou alors est-ce que mon sel manque de saveur ? Je coupe, hein, c'est pour ça que je m'arrête, je coupe. Alors, ces trois fonctions du sel que j'ai bien d'évoquer dans le deuxième point, assaisonner, conserver, donner soif, elles ont toutes les trois quelque chose en commun, et c'est ce que j'aimerais souligner dans ce dernier point, c'est que leur action n'est possible que si elles sont au contact de leur environnement proche. Le sel ne sale que quand il est au contact de la nourriture et la nourriture n'est claire que là où il y a des ténèbres. Pour le sel, il faut qu'il y ait contact pour que le sel pénètre, hein, pour que ça passe dans les aliments. Et donc vous me voyez venir et cette vérité essentielle que j'aimerais souligner ici en terminant, c'est que pour être concrètement sel de la terre, pour être efficacement sel de la terre, un sel qui assaisonne, un sel qui préserve, un sel qui donne soif, puis toutes les autres choses que vous avez vues dans les groupes qu'on peut dire sur le sel, et ben pour que ça arrive, il faut être au contact. Il faut que le sel soit au contact des aliments et nous devons être au contact de celles et ceux qui nous entourent. Autrement, notre sel n'aura pas son efficacité. Hein, nous ne pouvons pas saler quelque chose. Le sel ne sale pas ce qui est à distance, il sale ce qui est au contact. Et de même, je crois que c'est ce que nous devons comprendre, si nous voulons comprendre ce que ça veut dire être sel de la terre, ça veut dire que nous devons être au contact de nos amis, de nos voisins, de nos familles. Le chrétien doit être dans le monde, impliqué dans le monde. Alors c'est vrai, on oppose à ça souvent cette parole qui dit que vous n'êtes pas du monde. Oui, bien évidemment, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et d'ailleurs, c'est dans le monde que Jésus a envoyé ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Jésus, dans sa prière sacerdotale, demande à son Père de ne pas ôter les disciples du monde. C'est donc bien dans le monde que nous devons être. Et une des grandes erreurs de, de certains chrétiens au fil des siècles a été de se retirer du monde, de penser qu'en se retirant du monde, on allait se préserver du monde. On a fait des monastères, on a fait toutes sortes de choses pour se préserver du monde. Mais le monde n'est pas seulement autour de nous, le monde est en nous. Et donc je peux me barricader, le monde sera avec moi à l'intérieur de la barricade. Alors oui, bien sûr, il faut de la vigilance parce que parfois à vouloir influencer les autres, on peut parfois se faire influencer soi-même. Et donc il faut être vigilant, le danger peut être réel, parfois au début de la vie chrétienne, parfois plus tard. Mais pour être réellement, efficacement celle de la terre, je dois être au contact. Et donc nous devons vraiment nous garder de cette idée que nous pouvons faire l'économie de ce contact, l'économie d'aller vers les autres. Et nous devons veiller à ne pas tomber dans cette idée et dans ce piège que le monde va venir à nous si nous sommes bien fidèles dans notre petit coin. Alors peut-être que par la grâce de Dieu, c'est le cas, mais quand même, dans la plupart des cas, il faut aller vers les autres. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour terminer. La bonne nouvelle, c'est que, vous le savez, un tout petit peu de sel, ça suffit. Dans votre repas, si vous y allez franco, ben vous passerez la journée à boire, et d'ailleurs, pas sûr que vous aurez envie de finir votre assiette, parce que c'est pas bon. Mais derrière cette réalité que c'est pas bon, il y a l'autre réalité qu'un tout petit peu de sel, ça suffit pour accomplir ce qu'il doit accomplir, pour saler. Un peu de sel suffit pour assaisonner, un peu de sel suffit pour préserver de la pourriture, un peu de sel suffit à donner soif. Et donc ça m'amène à dire qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ces hommes et ces femmes qui ont accompli de grandes choses, en pensant que nous ne serons utiles et efficaces que si nous faisons de grandes choses. Le Seigneur décidera pour nous quelle est notre mission, mais nous n'avons pas besoin d'être du calibre de ces Wilberforce, de ces Martin Luther King pour être efficaces. Un peu de sel à notre niveau, là où le Seigneur nous a placés, peut être suffisant. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'occuper la place que le Seigneur nous a confiée dans nos familles, nos lieux de travail, nos quartiers, nos écoles, nos villes, nos villages. Il y a des places à prendre. Si nous ne les prenons pas, celles et ceux qui les prendront ne le feront peut-être pas à la gloire de Dieu. Si nous les prenons, nous les prendrons et nous les ferons à la gloire de Dieu. Voilà, chers amis, que cette image du sel nous aide à mieux comprendre ce matin ce que le Seigneur attend de nous, qu'il nous fasse comprendre que même si ça peut parfois paraître plus sécurisant, c'est pas en nous repliant sur nous-mêmes que nous pouvons accomplir cette mission, mais c'est bien en allant vers les autres. Et ce texte de Jésus nous appelle à être ce que nous sommes devenus, à agir en fonction de cette nature qu'il nous a donnée. Nous sommes le sel de la terre, mais nous devons être un sel efficace. Et pour être efficace, nous devons être au contact des autres. Alors que le Seigneur nous aide chacun, c'est notre défi. Il y aura peut-être une autre fois des choses à dire sur la lumière, mais voilà. Pour le sel, je vous invite à prendre juste quelques instants de silence pour repasser peut-être ces choses dans votre cœur. Amen.